Lorraine, pouvez-vous nous en dire plus sur la question de la loi Egalim ? Peut-on la rappeler brièvement ?
Je m'appelle Lorraine Prinet et je suis co-porte-parole de la Confédération Paysanne. La loi Egalim, c'est une loi qui a été votée dans une première mouture en 2018, je dirais, si je ne me trompe pas, et qui visait à rendre les relations commerciales entre les agriculteurs et les géants de la grande distribution, par là les plateformes d'approvisionnement, plus équitables. C'est-à-dire qu'on a quand même des opérateurs de l'agroalimentaire qui, chaque année, sortent des profits toujours plus positif et parfois à deux chiffres, là où l'augmentation de la valeur sur les fermes est souvent cantonnée à des chiffres proches de zéro. Et en excluant notamment l'interdiction de revente sous les coûts de production, les seuils de perte, de permettre à ce que la valeur reste sur les fermes, en fait. C'est-à-dire qu'on accepte que des productions agricoles soient vendues plus bas que les coûts de production. C'est pas possible. Et ça, aujourd'hui, c'est probablement une des premières revendications. Et certes, si la base, je dirais aujourd'hui, les agriculteurs qui se mobilisent en parlent, on a l'impression que dans les plus hautes sphères, ça pénètre pas du tout.
C'est vrai que ça, la loi Egalim, c'est aussi encore une arnaque politique, parce que la loi Egalim, elle est mise en avant, et Gabriel Attal l'a encore dit, on va la faire appliquer, on va donner des amendes, sauf que du coup, faire appliquer une loi qui permet d'acheter des produits agricoles en dessous de leur coût de production, c'est pas une solution. Et donc voilà, là, il y a une action assez rapide à faire aussi, hein, ce serait de revoir cette loi Egalim et de fixer des prix minimum d'achat. Donc là, on n'est même plus sur les concurrences intra-européennes, on est juste franco-français. C'est que la grande distribution achète les produits au juste prix. Au moment de la réforme de retraite, je me suis vite fait le calcul par rapport à la répartition de la valeur en France. En fait, dans les années 90, on était encore 1 200 000 paysans et le chiffre d'affaires de l'agriculture, c'était 62 milliards. Aujourd'hui, on est moins de 400 000 et le chiffre d'affaires de l'agriculture, c'est 72 milliards. Pourtant, on n'est quand même pas beaucoup plus riches tous. Donc, il faut se poser la question de où est partie cette valeur, parce que du coup, c'est quand même une augmentation de 10% et puis une réduction drastique du nombre de parts de gâteau, on va dire. On est dans la même problématique avec la PAC. On montre du doigt souvent l'agriculture et les paysans parce que c'est les bénéficiaires de 9 milliards d'euros de PAC et que ça coûte super cher à l'Europe. Pourtant, comment ça se fait que derrière, on n'arrive pas à sortir un revenu et que certains, même s'ils ont de la PAC qui fait 50% de leur chiffre d'affaires, ils ont encore un revenu minime derrière? Ben, c'est parce que la PAC est redistribuée en amont et en aval par des prix bas et par des investissements contraints.
Une proposition de votre syndicat concerne la répartition. Qu'entendez-vous par là?
Et il y en a un qui est vraiment important, c'est la répartition aussi, dont on n'a pas parlé. Et du coup, ce que disait Benoît, c'est alors répartition des moyens de production, donc pouvoir accéder aux fonciers, mais la répartition de la PAC, enfin des moyens donc de financiers, qui est extrêmement mal répartie. Donc c'est parmi, si on passe les politiques agricoles à travers ce filtre, je pense qu'il y aurait vraiment des grosses réorientations à faire, parce que la répartition de la valeur ajoutée, parce que lorsqu'on fait de la valeur ajoutée sur le territoire, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les 72 milliards, ils sont répartis, ils partent où? Parce que du coup, on est plus que 400 000 et puis qu'on n'a encore pas de revenus. Donc répartition de la valeur ajoutée, donc ça marche sur les fermes, mais ça marche aussi au niveau du paysage agricole, quoi. Comment répartir, c'est que ça reste quand même la base pour des politiques agricoles, quoi. Reprenons le terme paysan. Dans paysan, il y a pays, quoi. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire il y a 100 ans, l'ensemble de l'organisation sociale d'un pays, il était quand même basé sur la paysannerie. C'était quand même la population la plus importante, c'était l'organisation sociale la plus importante. Et quand je parle d'organisation sociale, c'était territorial, c'est-à-dire qu'il y avait des moulins partout, il y avait toute une activité rurale, y compris l'activité urbaine était aussi conditionnée à l'organisation de la paysannerie. Dans paysan, il y a paysage. On me disait, mais une fois, on m'a demandé, c'est quoi un paysage? Je disais, c'est un paysage. On peut le voir différemment. Et effectivement, ce constat sur la crise sociale, elle ne touche pas que l'agriculture. Et on le voit bien, lorsqu'on a des normes environnementales et sanitaires, c'est quand même pas pour rien. C'est parce que du coup, on travaille et qu'on occupe la nature. On est les paysans, on est ceux qui occupent le plus large espace de la nature, mis à part les forêts. Et encore, on a des bêtes dans les forêts. Et donc, nos actions, elles ont des impacts directs, que ce soit par nos productions agricoles, parce qu'elles vont nourrir la population, et donc il faut la nourrir correctement et de manière saine. Mais aussi, on va avoir des impacts sur le stockage du carbone dans le sol, donc la qualité des sols, sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air. Lorsqu'on retrouve des pesticides dans les lacs d'altitude, Il ne faut pas essayer de nous faire croire qu'en mettant une zone de non-traitement de 5 mètres, on va protéger son voisin. Donc effectivement, il y a énormément de pédagogie à faire, parce qu'on peut comprendre que celui qui a besoin de mettre des pesticides pour maintenir son revenu, parce que sinon on lui refuse ses productions, si on lui dit bah, tu vas abandonner 5 mètres ou 20 mètres dans ton champ, eh ben, on peut comprendre qu'ils sont en colère. Mais si on n'explique pas et qu'on ne met pas les conditions en place pour pouvoir se passer de ces pratiques délétères, ben à ce moment-là, on se retrouve avec un clash comme on l'a en ce moment.